Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraougo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, bien sûr, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, est avec nous. Thierry, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bienvenue à Kinshasa.
Merci bien Thierry. Nous retrouvons Amdine Si au Caire en Égypte. Donc Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et donc d'ici là, nous allons retrouver Roger Stéphane en direct depuis Abidjan et Élisée Mpatine qui nous reviendra depuis Boïkon au Bénin. Merci à tous de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute. Vous le savez, la finale de la 32e édition de la CAN Égypte 2019 opposera l'Algérie au Sénégal. On a vécu deux demi-finales épiques hier, Tunisie, Sénégal et Algérie, Nigeria. On va y revenir match par match. D'abord, dans la première demi-finale, Sénégalais et Tunisiens aux prises sont passés par toutes les émotions. Et pour un petit rappel des faits, alors que le score était de 0-0, trois faits marquants ont sonné surtout les Lions de la Teranga qui se sont à chaque fois en sortie. D'abord, il leur a fallu se relever quand une main de Kalidou Koulibaly a provoqué un pénalty pour les Tunisiens. Mais le gardien sénégalais Alfred Gomis a arrêté le tir de Ferdjani Sassi à la 75e. Puis il leur a fallu encore se relever après qu'Henri Savès s'est raté dans le même exercice face au gardien tunisien Moez Hassen à la 80e. Et enfin, il leur a fallu enfin résister à 3 minutes sous haute tension quand l'arbitre Bamlak Tessama, l'Éthiopien, a consulté la VAR pour une main d'Idrissa Ganagé à la 115e minute dans les prolongations donc. Mais alors que Naïm Sliti était prêt pour tirer, l'arbitre éthiopien est revenu sur sa décision. Comble de ce scénario fou, le héros sénégalais tunisien Dylan Brown a libéré les Lions malgré lui lors de la prolongation donc en repoussant dans ses filets une balle très mal dégagée par son gardien à la 100e minute de jeu. Des moments intenses de foot que même un entraîneur ne maîtrise pas. On va écouter Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal.
Vous ne maîtrisez rien du tout à un moment donné. Il ne s'agit plus de tactique, il ne s'agit plus de technique. Ce sont des hommes à un moment donné qui sont sur le terrain. En réalité, vous êtes en dehors du terrain, vous criez partout, mais le message passe peu. Ce match d'aujourd'hui a été un match quand même incroyable, quoi. Je crois que ça restera dans les annales du football africain.
Alors, Amdine, si vous étiez au stade du 30 juin pour ce match inoubliable, on va dire.
Oui, tout à fait, c'est un match inoubliable. Le Sénégal a composé son ticket pour la deuxième fois de l'histoire, 17 ans après, puisque la première finale de l'équipe nationale du Sénégal remonte en 2002, c'était à Bamako, avec la génération dorée de 2002. Pour revenir au match d'hier, c'était un match fou, complètement fou, un match plein de rebondissements, avec un scénario incroyable, vous l'avez dit tantôt, avec un penalty raté de chaque côté, dans le temps réglementaire, mais aussi un but cruel marqué par le défenseur tunisien contre son corps, suite à un coup franc porté par Henri Savès, même s'il avait raté le pénalty sénégalais. Il faut dire qu'aussi, il y a eu la VAR qui est intervenue sur cette faute de main de Idrissa Ganagé que vous avez tantôt dit. Mais pourtant, les choses avaient bien démarré pour le Sénégal si on regarde quand même la première période, une première période dominée par l'équipe nationale du Sénégal. Mais les Sénégalais n'ont pas réussi à concrétiser cette élimination malgré quand même le tir de Sabali qui a rebondi sur la barre transversale et l'occasion de Sadio Mané qui a dribblé le gardien mais qui n'a pas pu cadrer. Mais au retour des vestiaires, on a vu une équipe de la Tunisie métamorphosée qui ont quand même créé d'énormes problèmes à cette équipe nationale du Sénégal. À force d'attaquer les Lions de la Teranga, ils ont eu ce penalty arrêté, comme vous l'avez tantôt dit, par Alfred Gomis. Les Sénégalais quand même ont répliqué, comme on dit, réponse liberté à la bergère en créant un penalty. Arrêté également par le gardien de vie. Ce match était interdit au cardiaque, Yacouba, il faut le dire. Le match est continué comme ça jusqu'à la prolongation et ensuite il a eu ce but. Ce fameux but marqué comme son cas. Il faut dire que hier, les deux du football étaient sénégalais. C'est pourquoi le Sénégal s'est qualifié. Mais si on regarde le match, c'était vraiment du 50-50. Un match fou. Un match où les 22 acteurs se sont donnés à fond. Un match où les deux entraîneurs, que ce soit Aliou Cissé, que ce soit Alain Giresse, ont joué leur partition à fond. Dans les gradés également, les supporters qui se sont donnés à fond.
mais comme on le dit, le jeu était sénégalais et le Sénégal s'est qualifié. Le Sénégal s'impose par un gardien et du coup, il jouera sa deuxième finale de l'histoire face à l'Algérie, comme vous l'avez tantôt dit.
Merci bien, Amdine Sy. En face, les Tunisiens ont fait un gros match, vous le disiez tout à l'heure, mais le résultat n'a pas suivi. On va écouter Alain Giresse, le sélectionneur des Aigles de Carthage.
Quand on est éliminé, évidemment, c'est la première déception qui prévaut, évidemment. Dans ce genre de rencontre, l'important, c'est de se qualifier, d'aller jusqu'au bout, ce qui n'a pas été le cas. Après, bien sûr, qu'on peut, sur la prestation de l'équipe, se dire qu'on était au niveau de l'équipe du Sénégal et au niveau de cette demi-finale. C'est bien peu, mais c'est déjà une chose.
Alors, Jules, c'est vrai que le Sénégal a dominé surtout la première mi-temps avec ce poteau, hein, Amdine le disait tout à l'heure, de Youssouf Sabali. Mais la Tunisie a réussi quand même à rééquilibrer les débats, en seconde mi-temps notamment.
Oui, mais bien sûr, et ça répond à la philosophie de jeu des Tunisiens. Ce sont des footballeurs très techniques, mais qui sont assez économes dans l'utilisation de cette technique. Bon, alors ils ont des phases où ils font cherchent à faire déjouer l'adversaire et pourrissent même parfois un peu les rencontres, mais quand ils se mettent dans le registre vraiment technique, ils sont presque inarrêtables. Bon, mais le vrai problème, c'est que ce registre n'est pas suffisamment exploité. Et donc là, par exemple, je crois dans leur tête, ils se disaient qu'ils iraient aussi au but et se préparaient pour cela. Donc, en gros, si les Tunisiens n'ont pas passé ce cap, c'est aussi en partie à cause de leur approche au niveau footballistique.
Alors, Thierry, il y a ce pénalty, le premier manqué de Sassi. Est-ce le tournant du match?
Non, parce qu'il y a eu encore deux faits derrière qui ont été un peu signalés. Il est vrai que le tout premier pénalty aurait récompensé le retour en force des Aigles de Carthage de la Tunisie qui, mes prédécesseurs l'ont dit, ont souffert en première période face à des Lions qui voulaient en finir justement, mais qui ont été maladroits, qui n'ont pas été précis dans leur dernière transmission. Mais derrière le pénalty manqué des Tunisiens, ou mieux arrêté par le portier de Lyon de la Teranga, qui a d'ailleurs été élu homme du match, il y a eu également ce pénalty raté par Idrissa Galagay quelques minutes après, et surtout en prolongation, on va le dire, ce but à la 30e minute contre son corps de défenseur tunisien, puis ce penalty qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Je disais encore il y a quelques heures les commentaires des Tunisiens qui ne digèrent pas que l'arbitre ait d'abord accordé, puis annulé ce penalty qui semblait selon eux logique. Donc voilà, il y a eu plusieurs faits importants sur cette demi-finale. Mais globalement, on ne va pas enlever à l'équipe du Sénégal sa qualification, car dans le contenu du match, elle ne l'a pas moins mérité, en tout cas, surtout en première période et en début de prolongation. Les Sénégalais ont poussé. Et même dans les dernières minutes, après avoir inscrit ce but, ils ont quand même su bien gérer ce match, malgré ce fait de jeu important, qu'ils vont continuer à faire parler. Hein. Donc voilà, ce n'était pas le seul fait du match, hein, le pénalty tunisien, pour moi, car il y en a eu beaucoup derrière qui ont influencé le résultat ou qui ont fait parler, en tout cas.
Alors justement, Roger Stéphane, on a eu ce pénalty pour la Tunisie dans les arrêts de jeu. L'arbitre éthiopien Bamlak Tessama a consulté la VAR pour une main d'Idrissa Ganagay à la 115e minute, on se rappelle encore. Mais alors que Naïm Esliti était prêt pour tirer, l'arbitre éthiopien est revenu sur sa décision. Les Tunisiens crient au vol, Thierry le disait tout à l'heure. Alors, difficile quand même d'apprécier, hein, tout de même.
Oui, mais difficile d'apprécier, mais il faut regarder les règlements, ce qu'ils disent en la matière. La loi 12 sur le pénalty, les fautes et les incorrections, l'ancienne loi dit un coup franc direct est accordé à l'équipe adverse du joueur qui touche délibérément le ballon de la main. Ça, c'était l'ancienne loi. Et puis, il y a une nouvelle loi qui a été prise par l'IFAB il n'y a pas longtemps, je pense, au mois de mars de cette année. Il y a
eu 5
règlements qui ont été modifiés. Voilà, depuis mars, il y a 5 règlements qui ont été modifiés. Et la loi dit ceci, le ballon, la notion d'intentionnalité de la main est supprimée, involontaire ou volontaire, toute main dans la surface de réparation est automatiquement sanctionnée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est resté sur l'ancien règlement qui permet à l'arbitre d'apprécier si le geste a été intentionnel ou pas? ou alors est-ce qu'il fallait appliquer le nouveau règlement qui dit qu'il faut siffler une main automatiquement? Ben bon, c'est une action qui reste toujours comme ça avec cette fameuse VAR qui ne règle pas vraiment les problèmes, les polémiques continuent, on est toujours là à soumis à l'appréciation de l'arbitre. L'arbitre siffle un pénalty qui, à notre avis, était tout somme logique parce qu'il y avait bien main du défenseur sénégalais. Juste derrière, vous aviez un joueur tunisien qui aurait pu reprendre le ballon. Il siffle, il consigne la vidéo, il revient pour annuler le pénalty. C'est un peu rocambolesque tout ça. Je pense que la FIFA doit mettre un peu d'ordre dans tous ces règlements pour qu'on évite toutes ces polémiques. Mais moi, si vous voulez mon avis en tant qu'observateur, je pense que sur l'ensemble du match, la Tunisie méritait un petit quelque chose pour nous permettre d'avoir un scénario un peu plus intéressant sur la suite de la compétition. Parce que sur l'ensemble du match, où les deux équipes, à mon avis, n'ont pas été très très belles, c'était un match trop agressif, trop difficile. Il aurait été bon qu'on aille un peu plus loin. Mais bon, les Sénégalais s'en sont sortis. Dommage pour les Tunisiens. Mais on va continuer de polémiquer parce que la VAR, malheureusement, ne règle pas tous les problèmes. Il y a toujours matière à polémiquer sur certaines décisions arbitrales.
Alors, Élisée, on reste là-dessus. Il y a eu cette main d'Idrissa Gueye, sauf que l'arbitre a estimé que ce n'est pas intentionnel, en tout cas, son analyse. Ce qui paraît bizarre, car c'est que dans le même match, sur la main de Kalidou Koulibaly, où il accorde le pénalty, l'intention aussi n'y était pas, et la main était assez nette.
Bien évidemment, et puis on a vu sur le second match entre Nigeria et l'Algérie, la faute d'Aïssa Mendy, c'est vrai, bon, le ballon qui allait mourir directement sur le bras d'Aïssa Mendy, après avoir consulté la VAR, on a vu qu'il y a eu l'arbitre a sifflé le pénalty, Gassama a sifflé le pénalty. Maintenant, sur ce match, il faut dire que à la télé, on a vu plusieurs angles de ralenti, mais sur la VAR, après avoir consulté la vidéo, l'arbitre, bizarrement, n'a eu qu'un seul angle. Peut-être que c'est ça qui l'a mis en difficulté. Sinon, lui aussi aurait pu avoir tous les angles pour pouvoir bien apprécier cette faute. Mais dommage que sur la vidéo, quand il fait approcher de la VAR pour visualiser l'action, on lui a montré, le réalisateur lui a montré qu'un seul angle, j'allais dire. Donc, c'est-à-dire que à partir de là, ça lui a posé un peu de problème. Sinon, sur l'action, il faut dire, Yacouba, que la FIFA a déjà sorti une loi. Désormais, il n'y a plus de main intentionnelle ou bien le ballon vers la main. Toute faute ou bien toute action menant droit le ballon vers la main doit être sifflée. C'est désormais cela et l'arbitre éthiopien Tessema devrait normalement siffler le pénalty pour les Tunisiens. Voilà, il a choisi, après avoir visualisé la vidéo, de ne pas accorder le pénalty aux Tunisiens. C'est déjà passé, le Sénégalais en finale. Les Tunisiens ne peuvent s'en prendre à eux-mêmes puisqu'ils avaient eu l'occasion de mener au score. Ils ont loupé, les Sénégalais aussi, avec Henri Saïdé, ça n'a pas passé. Et sur un coup de grâce, eh bien, les Sénégalais se sont qualifiés. Dans l'ensemble du jeu, il faut dire que les Sénégalais ont mérité cette qualification.
Merci bien, Élisée Mpatine, donc, qui nous revient beaucoup plus en forme. Vous suivez Sporama sur VOA Afrique. L'émission revient tout de suite. Dans la deuxième demi-finale, Riyad Mahrez a envoyé les Fennec en finale. Près de 30 ans après son dernier titre, après leur dernier titre continental, les Lions de Manchester City et capitaine des Algériens logé un coup franc lumineux dans la lucarne juste avant le coup de sifflet final à la 95e minute. Et donc le score était de 1-1 jusqu'à ce coup franc de Riyad Mahrez. On va écouter l'attaquant de Man City qui a en même temps été élu homme du match.
On est très 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 heureux de rendre fier le peuple, c'était notre objectif, on le fait pour le peuple, pour nos familles. On sait que notre peuple est avec nous, est derrière nous à fond, donc on veut tout leur donner. Pour la deuxième question, c'est est-ce que c'est mon meilleur but? Je pense que c'est le plus important en sélection.
Le plus important qui envoie l'Algérie donc en finale de cette CAN Égypte 2019. Alors Amdine, là encore, ce fut un match de haute facture.
Un match de haute facture, hein. Il y a eu cette lumière de Mahrez qui a marqué dans le temps additionnel. Je pense que c'est les grands jours aussi servent à ça. Il a débloqué le compteur et l'Algérie en finale. Moi, personnellement, je pense que l'Algérie est la meilleure équipe de cette compétition et elle s'est qualifiée quand même logiquement, même si le match a été très difficile pour eux parce que le Nigeria aussi est un adversaire coriace. Hein. Le Nigeria qui a égalisé sur un pénalty, sur une faute de main. Les demi-finales, donc, il y avait une histoire de pénalty, une histoire de faute de main, mais c'est comme ça. un match de football, il faut avoir des fois des faits, des jeux, tout ça. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens de cette équipe d'Algérie, de cette demi-finale gagnée par l'Algérie, c'est l'équipe la plus complète, l'équipe, la belle équipe du tournoi avec un grand joueur nommé Riyad Mahrez, et il l'a prouvé hier.
Alors, Jules, ici encore, la VAR a joué un rôle hein, dans ce match, notamment sur le pénalty qui permet au Nigeria d'égaliser.
Oui, bien sûr. Et là, disons que la faute a été vue, et vu le nouveau règlement, parce que moi, je m'attendais aux nouvelles dispositions, et il n'y avait pas, dès qu'il y a eu les premières images, j'ai su que c'était un pénalty et indiscutable, c'est ce qui a été fait. Et donc, finalement, il faut préciser que si la VAR avait été utilisée dès le début de la compétition, il y a des matchs qui auraient changé complètement de sens. On aurait le Maroc sûrement qui aurait poursuivi sa route. On avait vu qu'il y avait deux hors-jeux sur deux actions décisives du Maroc, dont un but, et qui aurait poursuivi sa route. On aurait eu, par exemple, dans le Cameroun, le Nigeria, le troisième but nigérian est entaché d'un hors-jeu possible, mais on n'avait pas la VAR à ce moment-là pour vérifier. Donc, quand elle joue positivement, il faut se féliciter d'avoir cette technique-là avec pour assister les arbitres.
Jules, je reste avec vous. En dehors de ces faits de jeu-là, cette demi-finale Algérie-Nigeria, ce fut vraiment un match d'homme.
Oui, ce fut un match d'homme, surtout que l'Algérie a changé un peu cette disposition. C'était une équipe romantique dans le passé, un peu nerveuse sur les bords, qui faisait juste... Et disons que présenter son répertoire technique à travers des individualités est très très, très performante. Mais cette fois-ci, l'Algérie a enrichi son arsenal. Il y a des joueurs très physiques qui tiennent la dragée haute aux joueurs du sud du Sahara, et ils sont en même temps, au lieu de jouer dans la profondeur seulement, ce sont des gens qui savent attendre, attirer l'adversaire, jouer latéralement, et donc bref, qui ont du métier. Alors une équipe comme celle-là, moi depuis que je l'ai vue, c'est raté surtout le Sénégal dans sa première confrontation. Et pour moi, elle a pris la peau du favori, mais elle est très dangereuse d'être favori généralement en finale.
Justement, dans cette CAN-là, les pronostics sont très difficiles. Alors Thierry, on a vu cette équipe d'Algérie qui est collective, hein, de façon générale, chercher peut-être vainement la solution. Et elle s'en est remise hein, à un coup de pied, un coup d'éclair hein, de Riyad Mahrez. C'est aussi cette force hein, de cette formation des Fenech qui peut non seulement collectivement faire la différence, mais aussi individuellement dispose, on va dire, de génie.
Absolument. Hein, c'est la clé de la réussite de cette formation algérienne que j'ai vue évoluer sensiblement depuis 2015. Elle est totalement différente de celle de l'année dernière, de la précédente édition. Collectivement, elle est mieux, même si lors des précédentes éditions, elle a déjà les talents, mais elle sait mieux défendre et mieux faire circuler le ballon, et surtout s'en remet à des individualités qui, elles, ont fondu dans le collectif, mais elles savent également sortir des actions venues d'ailleurs, comme celle de Riyad Mahrez. Donc véritablement et amplement mérité pour l'Algérie, qui d'ailleurs dans le contenu de ce match a proposé beaucoup mieux que l'Afrique du Sud, que le Nigeria, qui m'a rappelé malheureusement à la formation des Super Eagles du premier tour, qui était un peu dans les doutes un tout petit peu, qui n'a pas proposé grand chose et qui a subi sur l'ensemble du match les assauts répétés des Algériens. D'ailleurs, c'est quasiment sur la seule action dont ils se sont procurés que les Nigériens ont bénéficié de ce pénalty qui a été transformé par le meilleur buteur du tournoi actuellement. Donc voilà, globalement l'Algérie l'a mérité, et c'est somme toute logique qu'à la toute dernière minute, son meilleur joueur sur ce match est l'un de ses meilleurs joueurs depuis le début de la compétition, surprisé le capitaine de l'équipe, Riyad Mahrez, qui sort déjà d'une très très belle saison avec Manchester City et a donc réussi ce coup franc. Il faut condamner également l'alignement et du gardien de but nigérien. Donc voilà, tout cela a été associé a fait que voilà, l'Algérie pour moi a largement mérité cette qualification pour la finale et au finish, comme on disait déjà il y a quelques jours, quelques semaines avant le tournoi de cette compétition. En fin de compte, je veux dire,
ce sont deux des meilleures formations ou deux des formations favorites qui se retrouvent à cette étape de la compétition et ça ne peut que nous satisfaire.
La finale du vendredi 19 juillet s'annonce donc très disputée entre des Algériens attendant depuis près de 30 ans un nouveau titre et des Sénégalais absents de l'affrontement final depuis 17 ans. Alors Amdine, la mauvaise nouvelle pour les Lions de la Teranga, c'est l'absence de Kalidou Koulibaly, le roc de la défense. Hein. Il a reçu un carton jaune qui le suspend du coup pour la grande échéance de vendredi.
Tout à fait, vous avez raison. Kalidou d'ailleurs est le seul joueur qui depuis le début de la compétition a joué tous les matchs. Il a joué du début à la fin, c'est vrai, c'est une absence de taille. Mais heureusement, dans l'équipe nationale du Sénégal, les joueurs sont indispensables. La preuve, lors du match d'ouverture, le maître à jouer de cette équipe, la phare de cette équipe, Sadio Mané n'avait pas joué, mais cela n'a pas empêché le Sénégal de s'imposer face à la Tanzanie sur le score de 2-0. Certes, l'Algérie n'est pas la Tanzanie, c'est vrai, mais j'ai confiance à Alicité, le coach. Et Kalidou Koulibaly sera remplacé valablement. Déjà, il y a une paire composée de Cheikhou Kouyaté et de Sané, puisque Kalidou et Sané avaient démarré la compétition et ensuite il y a eu la blessure de Sané. Kouyaté a pris la place de Sané et il a composé quand même au niveau de l'axe central de la défense du Sénégal un bon tandem avec Kalidou et je pense que pour cette finale, on aura un bon tandem entre Koulibaly, entre Cheikhou Kouyaté et Sané. Mais pour revenir un peu à cette finale, c'est la deuxième de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal. C'est vrai, le Sénégal fera face à la meilleure équipe du tournoi, mais le Sénégal jouera sans complexe, puisque, hormis cette défaite concédée face à l'Algérie, le Sénégal présente un bon bilan sur les 6 matchs. Le Sénégal en a remporté 5, une seule défaite. 8 buts marqués, un seul but encaissé. Donc, c'est une bonne équipe du Sénégal, une équipe du Sénégal qui jouera sans complexe face à cette redoutable équipe de l'Algérie. C'est une finale qui s'annonce palpitante, vous l'avez tantôt dit, puisque l'Algérie vraiment m'a séduit depuis le début de cette compétition. Mais sur 90 minutes et 120 minutes, le Sénégal peut faire la paire en inscrivant pour la première fois de l'histoire son nom au palmarès de cette Coupe d'Afrique des Nations, Yacouba.
Alors, Roger Stéphane, Amdine le disait tout à l'heure, le Sénégal n'a perdu qu'une seule fois dans cette CAN-là. Et c'était face à cette impressionnante équipe hein, de l'Algérie. Voyez-vous les Lions de la Teranga prendre leur revanche cette fois-ci?
Ça va pas être facile parce que cette équipe algérienne, elle est vraiment impressionnante. Le Sénégal, c'est la meilleure défense du tournoi. Il n'a encaissé un seul but, vous l'avez dit. C'est une équipe qui marque beaucoup, mais qui encaisse également. Elle est solide devant. Elle est nerveuse par moment. J'ai vu qu'elle était en difficulté par moment sur certains matchs, notamment le match perdu face aux Algériens, face à qui d'ailleurs ils ont pris le seul but encaissé de la compétition. C'est une équipe qui est capable de péter les plombs à tout moment, parce qu'on a vu face à l'équipe de la Tunisie, il y avait un peu de désordre hein, dans le jeu sénégalais. Mais bon, c'est une équipe qui a un gros mental de gagner, une équipe de compétition qui a perdu une finale en 2002 et qui est peut-être n'est pas loin d'un premier sacre continental. On le souhaite en tout cas pour cette équipe du Sénégal. Avec son entraîneur Alou Cissé, un jeune du Tiroir qui vient là pour cette finale. C'est une bonne nouvelle pour les Sénégalais. Bonne nouvelle également pour les Algériens. C'est la plus forte attaque de cette compétition. Donc vous avez compris, la meilleure attaque contre la meilleure défense. Ça va être un très beau match. Mais attention, l'Algérie est vraiment en forme. C'est l'équipe la plus complète individuellement, collectivement, tactiquement. Et puis un joueur à côté de la maison. Elle a gagné déjà en 90. Bon, on verra bien. Mais moi, je suis très heureux pour les deux entraîneurs. Belmadi pour l'Algérie et Cissé pour le Sénégal. C'est des locaux. Il y a eu 11 entraîneurs locaux dans cette compétition face à 13 expatriés. Est-ce que ça va être une révolution sur le continent africain qui va voir enfin nos équipes nationales être coachées par des enfants du pays
merci
de
bien. Merci bien, Roger Stéphane. Alors, Jules, en 15 secondes, Roger le disait tout à l'heure, Jamal Belmadi de l'autre côté, d'un côté, et Aliou Cissé de l'autre, tous anciens joueurs. À quoi pourrait se jouer la clé de cette finale?
Non, c'est que tous ont le même avantage. Les joueurs croient en eux, même s'ils gagnent plus d'argent que leurs entraîneurs. Ils sont vraiment les élèves du maître. Et je crois que ça se jouera sur un détail, un petit détail. C'est un match de 90 ou 120 minutes. C'est sur un détail.
Merci bien, Jules Valentin Ngoué, depuis Libreville, au Gabon Sporama, qui s'achève à la réalisation. Joselle Mauricin, Yacouba Ouédraogo devant ses micros. On se retrouve la semaine prochaine.